Riviera Ferraille.
De la place Bellecour, une ville qui flotte dans les airs, les fantômes de l'hôtel Terminus, un ascenseur pour l'enfer, ce sont nos dossiers du jour dans le bureau des mystères.
Bonsoir, bienvenue dans le bureau des mystères, je suis Mathias.
Et je suis Charles. Et ce soir, on va revenir à un ton un petit peu plus sérieux, un petit peu plus classique, puisqu'on a lu vos retours hein, quant à l'épisode spécial Mystère de Provence qu'on avait fait avec notre guest et patron Henri Michel. On avait voulu faire un épisode un peu plus rigolo, hein, on a pris du plaisir à rigoler avec Henri. Plusieurs nous ont fait part de leur retour, hein. Ça n'a pas plu à tout le monde, mais c'est pas grave, c'est normal. Et donc voilà, on va revenir sur un épisode un peu plus classique, n'est-ce pas?
Oui, c'est vrai qu'après les creepypasta, on avait voulu faire quelque chose voilà, de beaucoup plus détendu, un petit peu dans l'esprit de Riviera Détente. On comprend que ça ait pu diviser, c'est normal. En tout cas, on était fiers d'avoir Henri Michel comme premier invité.
Ouais, on était d'autant plus fiers que, ben, pour ma part, c'est Henri qui m'a donné envie de faire des podcasts. Et je pense que Bureau des Mystères, c'est évident, mais Inspiré de Faits Réels non plus n'aurait pas vu le jour s'il n'y avait pas eu Henri à un moment donné quelque part.
Exactement, toi, c'est une de tes sources d'inspiration principales. Moi, j'aime beaucoup, enfin, j'admire son travail.
C'est un vrai modèle.
c'est vrai que ça a été un modèle pour nous, en tout cas, dans le podcast. Moi, j'en ai évidemment d'autres. Et d'ailleurs, ça me fait plaisir parce que beaucoup d'auditeurs nous ont dit sur Apple Podcast que notre émission faisait penser un petit peu à Exocet, qui était diffusé sur Rage à Avignon avant, présenté par Patrick Beau.
J'ai lu ça, c'est un beau compliment.
Ça m'a vraiment touché puisque moi, Patrick Beau, c'est une de mes idoles. J'adore ce qu'il fait. Que ce soit sur Exolot ou anciennement sur Exocet, et ayant étudié à Avignon, voilà, j'ai cette connexion-là avec Exocet et Rage. Donc du coup, j'étais très content d'entendre ça. Enfin bref, voilà, il y a eu beaucoup de commentaires ces derniers temps, hein, puisque donc voilà, on disait, il y a eu les commentaires sur l'épisode avec Henri Michel, beaucoup de commentaires sur l'épisode Creepypasta qui vous a terrifié, mais ça,
tant mieux.
On s'y attendait un petit peu, tant mieux. Et on a aussi d'autres commentaires, et ceux-là m'ont aussi fait extrêmement plaisir. Un commentaire d'une personne qui nous avait mis une étoile il y a quelques temps, qui nous avait dit qu'elle n'avait pas du tout aimé l'émission et qui nous avait conseillé de faire appel à un orthophoniste qui a changé d'avis.
C'est vrai ?
Qui a rajouté des étoiles.
Oh, trop mignon,
complètement.
Merci.
Bah ouais, c'est vraiment gentil et qui a salué l'évolution de l'émission. Et ça, c'est le genre de message qui nous fait vraiment le plus plaisir.
Ça nous encourage.
Parce qu'on le reconnaît, hein. On fait souvent voilà, des vilaines fautes, notre diction n'est pas toujours parfaite. Mais on travaille vraiment là-dessus, et de voir qu'il y a des auditeurs qui le remarquent, ça nous fait vraiment plaisir, et ça nous pousse voilà, encore plus à avancer. Quoi. Donc voilà, on sait qu'il y a encore, c'est encore très perfectible notre émission, mais on travaille toujours dessus grâce à vos retours constructifs, et voilà, quoi. Comme ça fait vraiment plaisir. Quoi.
Et d'ailleurs, on avait eu un épisode, oulala, un commentaire nous demandant peut-être de sortir un petit peu de l'Occident. Ce que tu as fait, je crois, Mathias.
Oui, exactement. Ça, c'était avant même qu'on reçoive ce commentaire. C'est vrai qu'on fait beaucoup d'histoires qui se passent aux États-Unis, en Europe, voilà. J'en ai toujours une qui se passe en Occident, puisque ça se passera donc à Los Angeles, donc aux États-Unis. Mais j'en ai une, ce soir, je vais vous emmener en Chine.
Ah, ouais. Tandis que moi, n'ayant pas vu ce commentaire, j'ai décidé de faire des histoires 100% lyonnaises.
Eh bien écoute, c'est tout à ton honneur. Donc tu nous fais une 100% Lyon ce soir.
Ouais, une 100% Lyon, parce que j'y vis. Donc je me suis dit que j'allais m'intéresser au folklore local. Hein. J'ai déménagé en août dernier. Et donc ouais, 100% Lyon ce soir.
Et d'ailleurs, en parlant de Lyon, c'est là-bas que tu as vu pour la toute première fois.
Ouais.
C'est la première fois que ça arrive à un de nous deux.
Ouais.
Une de nos auditrices en vrai.
Ouais, j'ai vu une auditrice d'Inspiré de Faits Réels et du Bureau des Mystères en vrai. Et du coup, j'en profite pour lui faire plein de bisous. Elle s'appelle Léa. Spécial casse dédié à Léa.
Et écoute, salut Léa. Et nous, on passe à notre épisode du jour.
Les fantômes de l'hôtel Terminus.
Alors, les Lyonnais connaissent Perrache aujourd'hui, et pas que pour des bonnes raisons. On a un bel échangeur autoroutier qui traverse l'endroit. La gare Perrache en elle-même est, disons-le, plutôt dégueulasse à l'œil, avec son gros parking hors sol. Mais il n'en a pas toujours été ainsi, puisque je vais vous parler aujourd'hui de l'hôtel Château-Perrache, alors nommé Hôtel Terminus. Il était construit entre 1902 et 1906 et qui a eu un passé de bel hôtel. C'était un grand lieu de réception, vraiment très luxueux, d'ailleurs classé monument historique, avant d'être racheté par accord en 1997 et de devenir, si je dis pas de bêtises, l'hôtel Mercure qu'il est aujourd'hui. Donc c'est un bel hôtel en apparence, mais c'est beaucoup plus glauque à l'intérieur, puisque celui-ci a notamment servi pendant la Seconde Guerre mondiale de QG à la Gestapo lyonnaise. Alors là, c'est partie historique pas rigolote, hein, puisque dans cet hôtel Terminus, notamment, des interrogatoires ont été menés, ainsi que des actes de torture. Et l'hôtel était aussi idéalement situé pour les nazis, puisque à côté d'une gare, ferroviaire, donc d'où partaient les trains qui servaient à la déportation.
Ah, d'où le nom d'hôtel Terminus.
Si voilà. À l'époque, il n'est pas impossible qu'à l'époque, la gare Perrache était un terminus. C'est-à-dire que maintenant, ça continue vers le sud, mais il n'est pas impossible qu'à l'époque, c'était un terminus. Et donc cet hôtel, qui était le siège de la Gestapo lyonnaise, a notamment vu passer Klaus Barbie. Et là, on se dit que rien que ça, déjà, les murs ont dû être hantés à tout jamais. Donc il a été reconnu coupable, hein, pour ceux qui ne savent pas, de crimes contre l'humanité au tribunal de Lyon, et qui, en plus d'ordonner des exécutions à Auschwitz, a torturé notamment beaucoup de personnes de la région lyonnaise. La suite de l'histoire a été racontée dans un post de blog que j'ai découvert à cette occasion, qui s'appelle « L'hôtesse de l'air », et qui est tenue donc par une vraie hôtesse de l'air, hein, qui raconte sa vie, qui est faite de voyages, et les avantages aussi, hein, les inconvénients, mais les avantages aussi qui vont avec, hein, comme celui de dormir dans une très grande quantité de beaux hôtels. Et elle explique que contrairement à ses collègues, qui parfois peuvent être un peu difficiles, hein, parce que bon, quand t'as l'habitude de dormir dans des hôtels de luxe et que tu sais que dans telle destination tu dors forcément dans un hôtel pas top, t'évites la destination, voilà, tu deviens un peu difficile. Hein. Elle a pas forcément de liste noire d'hôtels qu'elle veut absolument éviter, elle est plutôt, on lui paye l'hôtel, elle est déjà contente. Enfin, je dis ça, mais pas tout à fait, puisque elle a pas de liste noire, sauf pour l'hôtel Terminus. Elle refuse catégoriquement d'aller dormir à cet hôtel, et c'est le seul hôtel dans lequel elle refuse d'aller dormir. Elle explique qu'entre agents de bord, en fait, il y a beaucoup de petits conseils et de rumeurs, hein, forcément, qui circulent sur les voyages, la qualité des lieux de villégiature. Et elle a notamment discuté avec un agent de bord qui a dormi plusieurs nuits à l'hôtel Terminus et qui a raconté des histoires tout à fait étranges. Déjà, premier élément, les tableaux, donc les peintures encadrées de la chambre dans laquelle dormait l'agent de bord, la mettaient plutôt mal à l'aise, puisque des personnes y sont représentées, mais c'est-à-dire que c'est des portraits, des personnes soit dans leur entièreté, soit avec un cadrage un peu plus serré, mais la totalité des tableaux de la chambre regarde vers le centre, c'est-à-dire qu'on a toujours l'impression d'être observé par les tableaux. C'est pas des scènes de paysages, des personnages qui se regardent entre eux. C'est que des portraits de face.
C'est pas très feng shui comme ambiance,
ouais,
pour dormir.
Je suis assez d'accord. Il y a déjà un petit potentiel angoissant rien qu'à avoir des tableaux comme ça. Et ensuite...
D'ailleurs, si je peux me permettre une petite intervention là-dessus. Je disais, c'est pas feng shui ce genre d'ambiance. C'est... Je suis très sérieux en disant ça. Il y a beaucoup de lieux qu'on pense hantés, dans lesquels on a une sensation de malaise. C'est ce qui caractérise généralement les lieux qu'on pense hantés, justement à cause de l'agencement de la pièce.
Ouais,
c'est le cas notamment dans le château dont on parle énormément sur YouTube et un petit peu partout, le fameux château de Fougeray, qui serait hanté, où on peut passer une nuit et où voilà, le lieu serait hanté. La sensation de malaise vient énormément de la manière dont sont agencer les chambres. Il y avait eu un épisode d'une émission, c'était je crois la meilleure maison d'hôte de France, ou je ne sais quoi, où parmi le jury, dans le jury, il y avait Mac Lesguy, entre autres, et une décoratrice intérieure.
Qu'est-ce
Cette décoratrice
faisait,
d'intérieur disait ça. Elle disait en fait, oui, enfin, vous dites que c'est un hôtel hanté, Mais en même temps, vu la manière dont la chambre est agencée, on a forcément une sensation d'inconfort et une sensation de malaise, quoi.
Et ouais.
Et je pense que, voilà, c'est ce qui explique beaucoup de lieux qu'on dit hantés. Mais voilà, je te laisse revenir sur ta chambre mal agencée de l'hôtel à Lyon.
Bah, surtout les tableaux. La chambre, elle est classique dans son architecture, mais c'est surtout les tableaux qui mettent mal à l'aise. Mais surtout, ça va un petit peu plus loin que ça, puisque durant sa première nuit passée à l'hôtel, la personne va entendre des bruits, et pas n'importe quel bruit, elle va entendre des grattements sur le mur, mais qui proviennent de la chambre d'à côté, enfin de ce qu'elle pense être la chambre d'à côté. Donc ça l'empêche de dormir, elle passe une très mauvaise nuit, et du coup le lendemain, elle va à la réception, et elle demande si c'est pas possible de dire à sa voisine de chambre de faire moins de bruit. Sauf que là, la réception lui répond un truc assez étrange, qu'elle n'avait pas de voisine la nuit dernière, puisque sa chambre est en fait la dernière de l'étage et qu'il n'y a pas de mur mitoyen avec une autre chambre et qu'en plus, les autres chambres étaient inoccupées. Donc là, elle trouve ça un peu bizarre, d'autant que le réceptionniste lui dit ça sur un ton très calme. Genre, il relève pas que ça puisse être un truc bizarre, qu'elle entende des grattements. Et donc, deuxième nuit, même problème. Des bruits de grattements. Et elle arrive à distinguer un peu, elle entend comme des ongles qui déchirent en fait la tapisserie qu'il y a sur les murs. Et elle arrive à localiser le bruit, et ces bruits viennent de derrière une peinture qui est accrochée au mur. Le lendemain, elle croise un autre agent de bord qui lui explique que toutes les rumeurs du coup qui tournent autour de l'hôtel et lui conseille un truc, et j'ai vraiment lu ça sur le poste de blog, hein, qui lui conseille littéralement de hurler haut et fort dans sa chambre « Laissez-moi tranquille, partez ». Et ben le soir venu, elle réentend des bruits, elle s'exécute, elle crie dans sa chambre et apparemment les bruits auraient cessé. Il y a d'autres petites... Ouais,
donc on est sur des fantômes obéissants. Donc.
Ouais, voilà, on est sur des... Oui, ça va, on est sur un fantôme qui écoute quand on lui parle. Il y a d'autres petites histoires qui ont continué à hanter ces lieux. Et notamment, tout aussi perturbant, un autre agent de bord qui s'est vu réveiller en pleine nuit parce qu'il avait la sensation qu'on tirait les draps au niveau de ses pieds. Et un autre qui a pris peur à cause d'une silhouette qu'il fixait à travers la fenêtre. Tout ça a cessé au moment où l'hôtel aurait décidé de retirer les peintures accrochées au mur. J'ai une hypothèse, avant de conclure sur cette histoire, c'est que Lyon, comme beaucoup de grandes villes européennes à l'époque, a connu plusieurs invasions de rats, tout simplement, et que les bruits de grattement qui étaient entendus et le fait qu'un bruit, un hurlement les fasse cesser rend assez plausible l'hypothèse de rats qui grattaient, et que il y a une légende urbaine qui s'est développée autour de cet hôtel, hein, qui est relativement connue. Je l'ai vu relayer en tout cas sur plusieurs posts de blog qui traitent de la région lyonnaise, et d'autant plus que l'histoire se termine doublement dans la mesure où il y a eu des grands travaux de restauration en 2015 qui ont grandement modernisé l'intérieur de l'hôtel, donc l'intérieur de l'hôtel a grandement changé, pas tout parce que comme j'ai dit au début il est classé, donc par exemple la façade ne peut pas être touchée et certaines pièces à l'intérieur ne peuvent pas être touchées, mais la partie disons d'accueil des visiteurs était grandement modernisé après 4 mois de travaux en 2015. Donc je pense que en dehors, disons, des rats, et évidemment du passé de l'hôtel, puisque c'est ça, c'est de là que partent les légendes urbaines, c'est le passé de QG de la Gestapo et de potentielle torture et même potentiel meurtre, même s'il n'y a pas de traces d'archives de ce cas-là, qui alimente une belle légende urbaine sur un hôtel, un ancien hôtel luxueux du centre lyonnais.
Bah écoute, je trouve qu'il y a quand même un beau degré de mystère sur cette histoire. En revanche, je me pose une question sur l'affaire en elle-même. Après, c'est la même chose sur énormément d'histoires dont on parle ici. Hein. c'est le témoignage, la source ouais. d'où ça vient. J'imagine que cette hôtesse de l'air est la seule à raconter cette histoire.
Alors, c'est la seule à en être la source.
Ouais.
Ce qu'elle dit a été repris à différents endroits. Mais comme je l'ai dit au début, c'est quelqu'un qui lui a raconté avoir vécu ça.
D'accord, donc on est potentiellement sur une légende urbaine, en fait. Pour ça que j'ai du mal à l'imaginer comme un vrai mystère encore à creuser, etc. Pour moi, enfin, ma conclusion, c'est qu'on est sur une légende urbaine et je crois beaucoup à ton explication des rats.
Ouais, bah je pense que en tout cas pour le bruit de grattement, après ce qui entoure bon, les tableaux, ça peut être malaisant, ça.
Oui, comme je disais tout à l'heure, voilà.
Ouais, voilà. C'est assez malaisant, mais les bruits, d'autant que en plus la ville de Lyon a connu à différents moments de son histoire, hein, l'histoire ancienne mais aussi l'histoire beaucoup plus récente, des vraies invasions de rats. Donc ça me semble absolument pas improbable, surtout que Perrache et le cours Verdun, et voilà, c'est vraiment de la grande ville avec, comme je disais, de l'échangeur autoroutier, beaucoup de petits canaux souterrains, beaucoup de choses comme ça, et ça ne m'étonnerait absolument pas qu'il y ait des rats dans l'hôtel qui, à un moment donné, surtout s'il n'y a pas de mur mitoyen, qui se glisse soit dans les canalisations, soit simplement dans les trous qu'il y a à l'intérieur des murs, dans les espaces qu'il y a dans les murs.
Bah écoute, si jamais tu as l'occasion d'aller dormir dans cet hôtel, j'aimerais bien avoir ton expertise là-dessus.
Bah écoute, en plus je passe souvent devant, donc...
Ou si nos auditrices et nos auditeurs qui sont à Lyon, ou qui prévoient de passer à Lyon, d'ailleurs passer à Lyon c'est très sympa comme ville, prévoit de trouver un hôtel, bah si vous restez par là-bas, n'hésitez pas à nous dire si vous avez entendu les fantômes de l'hôtel Terminus. Ascenseur vers l'enfer. Dans la nuit du 31 janvier au 1er février 2013, une jeune femme du nom d'Elisa Lam est entrée dans un ascenseur du Cecil Hotel, un établissement de Los Angeles qui a une sinistre réputation. Une vidéo enregistrée peu avant sa mystérieuse disparition reste encore aujourd'hui au cœur de toutes les théories. Est-ce que tu avais déjà entendu parler, Charles, de l'affaire Elisa Lam ?
Alors, Elisa Lam, c'est... J'ai vu la vidéo. C'est-à-dire que, sans même connaître son nom, c'est la fameuse vidéo de la personne qui aperçoit quelque chose qui est hors champ.
Je vais la décrire un peu plus tard, cette vidéo, en détail. C'est vrai que cette vidéo est considérée comme une des vidéos les plus mystérieuses d'Internet, une des plus effrayantes aussi, parce qu'on se demande ce qui va se passer, surtout quand on connaît le funeste destin d'Elisa Lam, que je vais vous raconter à présent. Mais on va commencer par le commencement, si vous voulez bien, par ce 27 janvier 2013, jour où Elisa Lam arrive à Los Angeles. Elisa Lam a 21 ans, une Canadienne, elle vient de Colombie-Britannique, et elle vient de finir ses 3 premières années d'études à l'université de Vancouver. Elle voyage seule aux États-Unis et elle vient de visiter San Diego, et elle arrive par le train à Downtown, le centre-ville de Los Angeles. Alors c'est l'hiver, hein, on est le 27 janvier, mais bon, il fait bon, c'est la Californie, hein, il fait quand même 15 degrés, En Californie, il fait toujours beau, mais par contre, ce qui est moins beau, c'est le quartier dans lequel elle est. Downtown, ce n'est pas le quartier le plus tranquille de Los Angeles. En fait, moi j'y suis allé, hein, à Downtown, pour mon travail, j'y ai même logé 3 fois, puisque je devais couvrir des cérémonies là-bas, parce que je suis journaliste. Je suis allé donc plusieurs fois à Los Angeles, et donc 3 fois à Downtown, et en dehors de la zone des hôtels de luxe, donc c'est là où généralement, on me logeait pour les reportages. Oui, j'ai un train de vie assez sympa quand je pars en reportage. Ça reste un quartier assez craignos. Alors, c'est pas pire que certaines zones comme Inglewood, qui est située près de l'aéroport, ou d'autres quartiers de Los Angeles qui sont tenus par des gangs. Mais quand même, Downtown, c'est pas très sécurisé. Autant le jour, ça va, parce qu'il y a beaucoup de commerce, il y a beaucoup de bureaux. Mais la nuit, c'est pas la même chose. Il y a beaucoup de sans-abri agressifs, il y a du trafic de drogue, de la violence, de la prostitution, enfin, tout ce qui fait un bon numéro de Bernard de la Villardière. C'est exactement ça.
Non, ou un bon GTA.
En fait, oui, en fait, c'est ça. Downtown, c'est un petit côté GTA la nuit, c'est ça. Bon, alors, c'est pas non plus des crimes à tous les coins de rue, hein. C'est pas non plus un coupe-gorge. Mais c'est pas un lieu, voilà, très sécure, et en 2013, ça l'était encore moins. Donc voilà. D'ailleurs, moi, je conseille, enfin le soir, mieux vaut rester dans son hôtel ou alors aller dans. Il y a beaucoup de clubs assez connus dans le coin, notamment le Mayan, qui est un hôtel qui date de l'âge d'or de Los Angeles, du Hollywood. qui est très réputé, où il y a beaucoup de bars, notamment des bars cachés hyper cool à Los Angeles. Il vaut mieux y aller en taxi, c'est ce que vous conseillent généralement les concierges de l'hôtel. Ils vous disent de pas trop traîner dans Downtown la nuit, quoi. Donc voilà, généralement on les écoute. Et aujourd'hui ça va mieux, mais dans les années 40, c'était vraiment ce qu'on peut appeler un coupe-gorge, Downtown. Ça s'est beaucoup amélioré en fait à partir du milieu des années 90, donc c'est toujours pas à gagner, hein. Mais des années 40 au début des années 90, c'était vraiment dangereux. Il y a eu beaucoup de serial killers qui y ont sévi, notamment Richard Ramirez, qu'on a surnommé le Night Stalker. Et Richard Ramirez, donc, a commis pas moins de 11 viols et 14 meurtres, au moins, en tout cas, c'est ce qu'il a avoué. Et il a longtemps logé dans un hôtel qui est situé sur Main Street, qui est une des grandes artères de Downtown. Et cet hôtel, c'est le Cecil Hotel. D'ailleurs, il y a beaucoup de nos auditeurs qui nous ont demandé de parler du Cecil Hotel, donc c'est l'occasion. Hein. On en reparlera peut-être plus en détail dans une autre émission, parce que c'est quand même un hôtel qui a une histoire chargée.
Oui, mais son histoire mérite un épisode, enfin une histoire à lui tout seul.
Une histoire, oui, bien sûr, parce qu'il y a eu donc Richard Ramirez, mais il y a eu d'autres personnes. Hein. Ouais. C'est un lieu qui est notamment affilié à la disparition du Dahlia Noir à Los Angeles. Donc voilà, c'est un hôtel dont l'histoire est vraiment intimement liée au crime. C'est un lieu qui est assez empreint de mystère et c'est dans cet hôtel-là qu'Elisa Lam a décidé de poser ses valises ce 27 janvier 2013. Le Cecil Hotel, c'est un hôtel de style art déco, qui est très richement décoré, enfin qui était, puisqu'il a connu son heure de gloire dans les années 20 et il a subitement décliné avec la Grande Dépression des années 30. Et en 2013, quand Elisa Lam arrive, il n'en reste que quelques sols en marbre et des décorations d'époque cuivrées. Et à part le hall, qui est vraiment le dernier vestige de la grandeur du Cecil Hotel, l'établissement, c'est plus qu'un banal hôtel de passage, pas très cher. Il y a 14 étages, 700 chambres, donc c'est quand même un grand hôtel.
C'est un gros bâtiment.
C'est un très gros bâtiment, hein. il faut vraiment imaginer un building sur Main Street, hein. c'est assez grand. 14 étages, 700 chambres, des touristes évidemment, des touristes qui n'ont pas beaucoup d'argent comme Elisa Lam, qui se déplaçaient donc principalement en train et en bus, hein, ce qui ne sont pas les moyens de transport les plus courus aux États-Unis pour ceux qui ont un petit peu d'argent, hein. c'est vraiment quand on est étudiant, ce genre de choses, qu'on prend principalement ces transports-là. Elle arrive dans cet hôtel où il y a donc des touristes, des personnes avec pas beaucoup de revenus qui vivent parfois la semaine, au mois ou à l'année. Il y a des résidents à l'hôtel Cecil. Le 31 janvier, ça devait être la dernière nuit qu'Elisa Lam devait passer au Cecil Hotel. Dans la journée, on l'a vu acheter des livres au Last Bookstore, qui est une célèbre librairie de Los Angeles. Et d'ailleurs, je vous la conseille, hein, si vous passez à Los Angeles, c'est une très très belle librairie. Assez spectaculaire, hein. Donc voilà, si vous passez par là, vraiment, c'est le petit conseil touristique, allez au Last Bookstore, c'est très très bien.
Conseil TripAdvisor.
Non, vraiment, j'ai beaucoup aimé, c'est un des endroits que j'ai préféré à Los Angeles, je crois. Avec évidemment Santa Monica. Donc voilà, c'est Elisa Lam, on la voit plus tard dans cette journée, dans le hall du Cecil Hotel, puis elle disparaît. À ce stade-là, elle disparaît purement et simplement, c'est, en tout cas, le 31 janvier, le dernier endroit où on la voit. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'Elisa Lam, elle appelait ses parents tous les jours pour les rassurer et leur raconter son voyage, hein, parce que ça reste quand même une jeune femme qui part toute seule loin de ses parents. D'ailleurs, ses parents n'étaient pas très emballés à l'idée qu'elle parte toute seule explorer les États-Unis. Donc du coup, ils étaient contents d'avoir de ses nouvelles au quotidien. Sauf que le 1er février, voyant qu'elle n'appelle pas, ils s'inquiètent et ils préviennent la police. Et 5 jours plus tard, le 6 février, la police de Los Angeles organise une conférence de presse et lance un avis de recherche. Et à ce moment-là, dans la conférence de presse, il parle de disparition suspecte qui pourrait laisser penser à un crime. Et malgré cet appel qui est un petit peu alarmant, l'appel ne donne rien. Alors le 13 février, le LAPD décide de faire un nouvel appel cette fois, mais en dévoilant une vidéo. Et c'est cette vidéo-là qui est aujourd'hui considérée comme une des plus mystérieuses du net et dont je vais vous parler maintenant, que je vais te décrire.
Ah, la fameuse vidéo a été révélée par la police de Los Angeles ?
Exactement, d'accord. Et c'est ça qui l'a situé au milieu de nombreuses théories du complot.
Ah oui, donc, okay. Ouais. Je comprends mieux.
Alors la vidéo, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vue, déjà, je vous conseille d'aller la voir. Hein. Tapez Elisa Lam dans Google, c'est une des premières choses qui ressort sur YouTube et sur bien d'autres sites. C'est une vidéo qui dure 3 minutes et 59 secondes. Elle a été enregistrée peu après minuit, dans la nuit du 31 janvier au 1er février, par une caméra de surveillance. Dessus, on voit Elisa Lam qui est seule, avec un sweat à capuche rouge et un short noir, elle rentre dans un des ascenseurs de l'hôtel. Alors Elisa Lam, normalement, elle porte des lunettes, hein, parce qu'elle a une mauvaise vue, sauf que là, sur ces images, elle n'en porte pas, et donc elle doit s'approcher des boutons pour choisir le bon numéro. On la voit appuyer sur un bouton, mais les portes se ferment pas, et à la 20e seconde, elle s'approche des portes, et là, d'un coup, elle passe sa tête à l'extérieur pour inspecter le couloir. Et ce qui a surpris les gens, c'est que ses mouvements sont très brusques, presque surjoués, en fait, comme si elle faisait semblant d'être poursuivie par quelque chose. C'est ça qui a beaucoup surpris au début. Donc elle regarde à gauche, à droite, puis elle re-rentre dans l'ascenseur, et elle se blottit dans le coin droit avant de l'ascenseur, le coin un petit peu à l'abri des regards. Si quelqu'un passe dans le couloir, on ne voit pas une personne qui se cache à cet endroit. Et à la 40e seconde, bah, elle sort de sa cachette, elle regarde à nouveau dans le couloir, comme si elle avait l'impression d'être suivie. Après, on la voit multiplier les allers-retours entre l'ascenseur et le couloir, elle regarde systématiquement vers la gauche, comme s'il y avait quelqu'un qui était là. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas de caméra de surveillance dans ce couloir-là, donc on ne peut pas savoir ce qu'elle regardait. Peut-être qu'il y avait quelqu'un, peut-être qu'il n'y avait pas, en tout cas, c'est comme s'il y avait quelqu'un et comme si elle le regardait. Elle sort une nouvelle fois de l'ascenseur au bout d'une minute de vidéo, et là elle reste dans le couloir une bonne trentaine de secondes, et c'est vraiment à ce moment-là que les images deviennent un peu plus troublantes. Parce que là, Elisa Lam re-rentre dans l'ascenseur, elle appuie sur toute une série de boutons, comme si elle tapait un code. Ensuite, elle ressort, elle regarde à droite, puis là, elle commence à faire des gestes étranges avec ses mains, comme si elle essayait de communiquer avec quelqu'un, mais des gestes vraiment un peu saccadés et surprenants, c'est-à-dire qu'elle se tord les poignets, elle agite les bras, elle fait des grands gestes, comprend pas exactement ce qu'elle fait, puis d'un coup, elle s'immobilise pendant 3 bonnes secondes. Et puis à 2 minutes 29 de la vidéo, elle s'en va. Et à 3 minutes, on voit l'ascenseur qui finit par se fermer au bout de 30 secondes, et les portes s'ouvrent à nouveau. Donc, est-ce qu'elle est toujours là ? Est-ce que c'est pour ça que les portes se rouvrent ? En tout cas, 15 secondes plus tard, ça se reproduit une nouvelle fois, les portes s'ouvrent, se finissent par se refermer, et là, la vidéo s'arrête. Donc la vidéo est quand même très étrange, hein, ouais, ce que je viens de vous décrire. C'est encore plus étrange à regarder.
Ouais, c'est assez perturbant, même.
Ce moment où elle fait ses gesticulations dans le couloir, on comprend vraiment pas ce qui se passe. C'est vraiment bizarre. Et donc du coup, juste après la mise en ligne de cette vidéo par le LAPD, il y a eu beaucoup de théories qui ont commencé à arriver sur Internet. Les forums de discussion en ligne où on trouve des web détectives ou des trucs comme 4chan ont été inondés de théories. Parmi les plus populaires, donc on soupçonne qu'elle aurait pris des substances hallucinogènes. Mais l'autopsie, et je parle d'autopsie car malheureusement vous l'avez compris, Elisa Lam décède ce soir-là, a démontré qu'elle n'avait pas pris de drogue ou d'alcool, donc pas de substances hallucinogènes a priori. On a supposé qu'elle jouait à cache-cache avec quelqu'un, pourquoi pas, qu'elle était menacée par quelqu'un qu'on ne voit pas sur la vidéo, donc ça c'est vraiment une des théories les plus populaires, ou qu'elle a carrément été possédée par un des esprits du Cecil Hotel.
Ah ouais.
Puisqu'on le rappelle, le Cecil Hotel a une réputation assez compliquée, une longue histoire avec le crime. Voilà, ça c'est une des explications les plus plausibles. Ça reste quand même la thèse qui a été développée déjà sur le net et qui sera largement développée par la suite, de l'épisode psychotique. Puisque Elisa Lam avait été diagnostiquée comme bipolaire et dépressive. En fait, Elisa Lam, elle prenait des médicaments, et elle se confiait parfois sur son Tumblr, parce que tout au long de son voyage, elle postait des messages sur son Tumblr. Elle se confiait parfois sur ses troubles mentaux. Et ce qui corrobore plus l'hypothèse de l'épisode psychotique, c'est que lors de ses deux premières nuits au Cecil Hotel, Elisa Lam, elle était dans une chambre partagée. Elle était en coloc avec quelqu'un. Mais elle a été transférée dans une chambre en solo parce que son colocataire se serait plaint de, je cite, « son étrange comportement ». Donc tu vois, ça, ouais. C'est potentiellement, voilà, c'est, ouais. c'est ce qui me fait pencher là-dessus.
Il y a un truc qui me pose question, c'est que elle avait pas ses lunettes alors qu'elle en a besoin et que ça la faisait s'approcher très près des, enfin plutôt près des boutons, c'est-à-dire qu'elle regarde vraiment les boutons sur lesquels elle appuie pour voir, voilà. Du coup, je me demande, quand elle passe la tête hors de l'ascenseur, elle voit rien.
En tout cas, elle doit avoir une forme ou elle doit avoir mal quelque chose.
Ouais, voilà, elle serait incapable de distinguer un visage, non ?
Si la personne est suffisamment loin, oui, normalement, elle ne distingue pas son visage. Après, elle peut distinguer une forme. Il y a peut-être quelqu'un qui la poursuivait, elle voyait comment la personne était habillée. Tout ça, on ne le saura jamais, finalement.
D'accord.
En tout cas, malgré le travail de la police et donc les nombreuses théories en ligne, l'intérêt du public, l'intérêt de la presse, on n'a pas retrouvé Elisa Lam avant le 19 février, soit 18 jours après sa disparition.
D'accord. Et dans quel état ? Enfin, dans quel, à quel endroit ?
Justement, c'est ça qui est encore plus troublant et qui fait penser à beaucoup de personnes au film Darkwater. En fait, le 19 février 2013, plusieurs clients du Cecil Hotel se plaignent de la pression de l'eau, qui serait un peu plus basse que d'habitude. Il y a certains témoignages qui parlent d'une eau avec un goût bizarre, et même d'une eau qui sortait noire du pommeau de douche avant de redevenir normale. Donc la direction a pris très au sérieux ses plaintes, c'est normal, hein, quand vous avez plusieurs clients qui commencent à vous dire qu'il y a un problème de pression de l'eau et qu'elle a un goût bizarre, vous allez vérifier. Donc la direction a envoyé un réparateur vérifier les 4 réservoirs d'eau de l'hôtel. Parce que le Cecil Hotel, c'est un hôtel qui a sur son toit 4 réservoirs d'eau d'environ 3800 litres chacun, qui alimentent toutes les chambres. Et donc lorsque le réparateur est arrivé sur le toit, il a constaté qu'il y avait un réservoir, il est allé regarder à l'intérieur, et qu'est-ce qu'il a vu au fond? Il a vu un sweat à capuche rouge, un short noir, et le corps nu qui gisait dans l'eau d'Elisa Lam. Alors comment elle s'est retrouvée là, c'est tout le mystère, évidemment. Ouais.
Est-ce que c'est possible d'y monter très facilement, ou est-ce qu'il fallait forcément apporter une échelle
Alors, une fois qu'on est sur le toit, on peut accéder assez facilement au réservoir.
D'accord.
Toute la difficulté, c'est de monter sur le toit, en fait. Donc voilà. Selon l'autopsie, donc, le corps d'Elisa Lam ne présentait aucun signe de traumatisme externe, ni d'agression. Il n'y a pas de caméra de surveillance sur le toit. Et l'alarme de la porte qui permet d'y accéder ne s'est pas déclenchée.
Ah ouais.
Donc comment elle s'est retrouvée là? Voilà, c'est pour ça que c'est très mystérieux. Surtout que l'Institut médico-légal a conclu un décès accidentel dû à une noyade, mais ça ne suffit pas hein, pour les enquêteurs du net. Ils essayent de comprendre pourquoi elle s'est noyée.
Oui, c'est ça, parce qu'après, la mort s'est faite par noyade, mais c'est juste le résultat, quoi.
Voilà. Et donc le LAPD a rendu ses conclusions. Pour eux, elle aurait eu un épisode psychotique qu'on voit sur la vidéo, donc c'est-à-dire ça expliquerait cette vidéo. Qui a été prise peu avant, elle se serait ensuite rendue sur le toit et elle se serait noyée par accident dans le réservoir.
Sans déclencher l'alarme.
Donc évidemment, ça n'a pas convaincu tout le monde, il y a eu beaucoup de théories sur le net encore une fois, et d'ailleurs il y a même des innocents qui ont vu leur identité jetée en pâture à cause de Reddit, 4chan et d'autres forums, puisque parmi les théories, il y avait notamment le fait que c'était un résident de l'hôtel qui l'avait tué, qui avait réussi à faire en sorte qu'on le retrouve pas, que ce soit un pompier, enfin, il y a eu énormément de théories impliquant des gens qui n'avaient rien à voir avec l'histoire.
D'accord.
Et qui ont retrouvé, ben, comme ça se fait de temps en temps avec les dérives d'Anonymous, c'est-à-dire des gens qui se retrouvent avec leurs numéros, leurs infos, leurs adresses balancées sur Internet, quoi. Donc ça, c'est la partie dark des web sleuths. Mais voilà, il y a eu beaucoup d'autres théories, voilà, et notamment certaines personnes qui ont pensé que la vidéo avait été modifiée.
La vidéo donnée par la police.
La vidéo donnée par la police. C'est pour ça qu'il y a des théories du complot autour de cette histoire aussi. Parce que c'est vrai que quand tu accélères un tout petit peu la vidéo, les gestes qu'Elisa Lam fait donc, dans son épisode vraiment très étrange, ça paraît justement moins bizarre, ça paraît un peu plus naturel. Tu vois, comme si elle était en train de dialoguer avec quelqu'un ou de faire des signes. Mais en tout cas, ça fait moins saccadé, donc c'est moins inquiétant, tu vois.
Ouais.
Il y a des vidéastes, donc des gens sur YouTube qui font... Il y a énormément de vidéos sur YouTube d'analyse de la vidéo d'Elisa Lam, évidemment. Ils l'ont analysée, et pour eux, il manque forcément des images sur cette vidéo qui a été donnée.
D'accord, genre, il y a des images... Enfin, sur les 24 images par seconde à laquelle doit enregistrer la caméra ou un truc comme ça, il en manque à l'intérieur.
Il en manque. Pour eux, c'est évident qu'il en manque.
Ah ouais, d'accord.
Et d'ailleurs, il s'appuie sur un détail de la vidéo qui est vrai, celui-là. C'est que le timecode est brouillé.
Ah, d'accord. Parce que j'allais dire aussi, les caméras de surveillance enregistrent pas, en fait. Il me semble que les caméras de surveillance, elles enregistrent, elles ont pas besoin d'enregistrer à autant d'images par seconde. Il me semble qu'il y en a beaucoup qui enregistrent à 15 images par seconde. Parce que
c'est
pas nécessaire.
C'est ce qui expliquerait le manque d'image et le côté saccadé de l'image. Ça se comprend. Mais le timecode brouillé, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont vu peut-être un complot, quelque chose. Donc voilà, c'est. Ils pensent même certains que le timecode, qui est donc brouillé, hein, rappelons-le, aurait été ajouté manuellement. Il aurait été ajouté au montage, cette vidéo serait un montage.
Ouais.
Parce que selon eux, le timecode qu'ils arrivent vite fait à déchiffrer en débrouillant un petit peu, ne correspond pas au déroulé des images.
Ah.
Voilà, donc ça c'est leur vision des choses. Donc alors pourquoi est-ce qu'on aurait modifié la vidéo? Ça, j'ai envie de vous dire, on ne le sait pas, c'est une des nombreuses théories du complot, une des nombreuses théories qui existent parmi notamment les hypothèses surnaturelles d'esprit démoniaque et de possession, de manipulation mentale, de reptiliens, de complots pharmaceutiques, d'expériences illégales. Non, c'est vrai tout ce que je dis. Hein.
Ah oui, non, mais je sais, ouais.
C'est vraiment des choses qui ont été écrites en ligne. Hein. Il y a un truc fumeux avec les extraterrestres, notamment. On pense qu'il y avait une expérience sur la tuberculose avec elle. Enfin, c'est vraiment, voilà, il y a énormément de trucs. En revanche, il y a quelques enquêteurs du dimanche un peu plus sérieux qui ont décidé d'aller sur place pour voir comment c'était. Alors évidemment, il y en a certains qui sont en mode chasseur de fantômes et qui disent qu'il y a une ambiance glaçante, pesante, que c'est une ambiance étrange, tout ça. Et d'autres, pas du tout. Aujourd'hui, le Cecil Hotel s'appelle le Stay on Main, et il y a peu de choses qui ont changé à part le nom, finalement. Mmh. Et il y a deux youtubeurs qui sont allés à l'intérieur et qui, eux, ont compris comment Elisa Lam aurait pu se retrouver sur le toit.
Ah.
Et c'est là que ça devient intéressant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont enquêté par la suite, après la police, vraiment pour faire du divertissement des vidéos YouTube, qui ont découvert un élément qui, du coup, concorde avec ce que disait la police. Et oui, au risque de détruire le mystère, l'hypothèse du LAPD me semble être la bonne. En fait, au 14e étage, donc c'est l'étage où était Elisa Lam avant de disparaître de l'ascenseur, il y a une fenêtre qui est non verrouillée et qui n'a pas d'alarme et qui, en fait, sert de sortie de secours en cas d'incendie. Et cette fenêtre-là, elle donne sur une échelle qui permet d'accéder au toit. Donc du coup, ça confirme la thèse de l'épisode psychotique, c'est-à-dire qu'on peut supposer que dans un état de paranoïa, en pensant que quelqu'un la suive, Elisa Lam aurait accédé au toit et aurait voulu se cacher dans le réservoir, et elle s'y serait noyée par accident.
Ouais.
Alors ça n'explique juste pas pourquoi elle aurait enlevé ses vêtements. Y a pas de raison à ça, ça c'est un des points qui reste encore aujourd'hui un petit peu mystérieux.
Elle a pu les enlever après, c'est-à-dire que... Enfin, j'ai pas vu les images des réservoirs d'eau, mais si elle avait pas pied, les vêtements étaient une gêne pour rester à hauteur et pas se noyer.
Oui, effectivement, c'est possible. Mais malheureusement, en tout cas, elle s'y est noyée par accident, selon la thèse officielle. Et toute cette histoire d'épisode psychotique, ça correspond finalement à la vie d'Elisa Lam, puisqu'il faut savoir que, donc, comme elle était bipolaire et dépressive, elle avait souffert donc, d'une lourde dépression par le passé, et elle avait confié sur son blog qu'elle avait rechuté en 2012, c'est-à-dire moins d'un an après cette nuit-là au Cecil Hotel. Donc en ce qui me concerne, moi, l'affaire est résolue, moi je crois en la thèse de la police là-dessus, et le mystère est levé. Mais le degré de mystère est toujours présent et restera pour beaucoup de personnes très élevé, je pense.
Ouais, bah ouais, parce que ça, c'est la vidéo. Et d'ailleurs, ça m'amène à une question que je voulais te poser. Pourquoi la police dévoile cette vidéo?
Parce que... Mais c'est ça qui est étonnant aussi bizarre, dans l'histoire.
Parce qu'on on voit pas assez bien son visage pour qu'elle soit identifiée, non?
Alors, on identifie donc ses fringues, hein, très bien, ouais. on voit que c'est elle. Je pense que c'était pour relancer l'intérêt autour de l'affaire, parce qu'ils se rendent compte que quelques jours après avoir fait la première conférence de presse, bah, il n'y a pas vraiment de retour. Et c'est compréhensible dans le sens où il faut savoir qu'à Los Angeles, il y a des gens qui disparaissent, ça arrive assez régulièrement quand même. C'est une très grande ville où il y a une activité criminelle. Donc bon, voilà, des gens qui disparaissent, malheureusement, ça arrive à Los Angeles. Et là, ses parents ont fait le déplacement de Vancouver à Los Angeles pour justement alerter en personne le public lors de la conférence de presse pour qu'on donne vraiment de l'importance à sa disparition. C'est une affaire qui, avant que la vidéo ne sorte, n'avait pas beaucoup fait parler. Et quand la vidéo est sortie, ça a fait parler, mais partout à travers le monde, parce que je ne l'ai pas précisé, mais les parents d'Elisa Lam sont hongkongais. C'est une histoire qui a énormément tourné en Asie.
D'accord.
Notamment suite à la diffusion de la vidéo. Qui a énormément tourné évidemment au Canada, dont était originaire Elisa Lam. Et donc du coup, tout ça, ça fait un petit peu pression pour que l'enquête avance, pour que les gens s'intéressent à l'affaire. Et voilà, même si aujourd'hui, les enquêteurs du dimanche d'Internet sont arrivés à peu près à la même conclusion qu'au LAPD, bah, au moins ça aura servi à ça de mettre la vidéo. Après, c'est vrai que voilà, la vidéo en elle-même reste étrange pour beaucoup de personnes parce que voilà, il y a ces histoires de timecode qui correspondraient pas, de mouvements saccadés, et puis le contenu de la vidéo qui est quand même inquiétant, quoi. Donc voilà.
Bah écoute, bon niveau de mystère, mais affaire en grande partie résolue, donc.
Affaire, voilà, en tout cas ça dépend de la manière dont tu vois les choses. Moi, en ce qui me concerne, elle est résolue, car je ne crois pas au fait qu'elle aurait été tuée par le gouvernement, car on savait trop sur des projets secrets. Je ne crois pas au sacrifice pour les forces obscures de l'hôtel, et je ne crois pas non plus à une théorie tout aussi fumeuse de creepypasta, qui est géniale, et dont j'ai envie de parler prochainement dans l'émission, donc je me la garde sous le coude.
D'accord, mais écoute, je pense qu'on peut refermer le dossier.
Ouais, allez, dossier fermé.
Et on passe au suivant. Les ovnis de la place Bellecour. Chaque année, en Rhône-Alpes, entre 5 et 10 personnes en moyenne déclarent avoir vu un ovni auprès de la gendarmerie ou auprès d'associations spécialisées. Donc il y en a évidemment plus qui pensent voir des ovnis, mais c'est à peu près le chiffre pour ceux qui déclarent vraiment, qui le déclarent vraiment à la gendarmerie ou à des associations. Et l'Ouest lyonnais serait apparemment un endroit tout particulier, puisque dites-vous que sur toute la région Rhône-Alpes, c'est ici qu'on recense le plus de déclarations d'apparitions. Donc voilà, j'habite pas dans l'Ouest lyonnais en vrai, j'habite dans le centre, mais pas loin de la zone où on voit le plus d'ovnis. Il existe même, c'est vous dire, une association lyonnaise dont le nom est, attention Mathias, OVNI Investigation. Donc moi ça m'a fait évidemment penser à Cache Investigation, mais sans Élise Lucet, ou alors Élise Lucet qui poursuit les ovnis avec son micro, je sais pas.
J'imagine bien Élise Lucet se faire téléporter dans les ovnis et faire « Bonjour Élise Lucet, ouais. OVNI Investigation, qu'avez-vous à dire aux Français ?»
D'autant que, alors là pour le coup, l'association...
Pourquoi est-ce que vous déclarez pas vos comptes?
Cette association a été créée en 2005, donc s'il faut, c'est même antérieur à Cache Investigation. Donc s'il faut, c'est même Élise Lucet qui a piqué le nom à l'association. Donc toujours est-il, c'est une association qui a l'air, ma foi, peuplée de gens sympathiques, hein, de ce que j'ai pu en lire, et qui recense sérieusement en fait des centaines de cas sur la région en particulier, et sur Lyon évidemment, puisqu'ils sont lyonnais. Et ils ont recensé plusieurs centaines de cas d'apparitions plus ou moins expliquées, hein, sur une période d'une quarantaine d'années. Donc eux expliquent bien que, voilà, il y a des fois, eux, ils essaient de mobiliser des méthodologies scientifiques, ils ont l'air tout à fait de bonne foi. Hein, et il y a des cas où on arrive à expliquer des jeux de lumière, ceci, cela, une météorite, une comète, voilà. Et des fois, des cas où on n'a pas assez d'éléments, soit on ne peut pas expliquer certains des cas d'OVNI recensés. D'ailleurs, je me dis que ça pourrait faire l'objet d'un numéro spécial OVNI de Rhône-Alpes, hein, puisque vous n'êtes pas sans savoir, chers auditeurs, que Mathias et moi-même venons de Rhône-Alpes. Donc je me dis qu'après les mystères de Provence...
On dit Auvergne-Rhône-Alpes maintenant, non, c'est ça?
Oh, t'as raison, pardon, c'est vrai. Auvergne-Rhône-Alpes, ouais. On interview
de Montélimar, précisément.
Ouais, de Montélimar, ouais, mais pour moi, tu vois, Rhône-Alpes restera toujours Rhône-Alpes, hein, malgré tout ce que Laurent Wauquiez pourra faire, ça ne prendra pas avec moi. Enfin bref, quand je parle d'OVNI, pour le coup, dans ce cas-là, c'est pas tout à fait comme l'histoire de Renato à Trans-en-Provence, hein, de la dernière fois où donc le gars avait déclaré voir un engin se poser littéralement dans son jardin. Là, l'association recense des phénomènes beaucoup plus timides, en fait, beaucoup moins hallucinants et spectaculaires. Ici, il s'agit plutôt de petites formes triangulaires flottant à l'horizon, de phénomènes lumineux en tout genre, ou de disques apparus au loin. Et on pourrait se dire que, du coup, les Lyonnais sont plutôt sobres en termes d'OVNI, hein, de ce côté-là, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est aussi là qu'on voit que Lyon et les OVNI, c'est une histoire d'amour, hein, et de peur qui dure depuis longtemps. Puisque la première apparition majeure date du 9e siècle, plus précisément en 832. Donc la première apparition recensée d'OVNI à Lyon date de 832. Oui, c'est pas tout neuf, hein. Et donc je cite Lyon Capital, puisque c'est donc un journal local, hein. Plusieurs témoins rapportent avoir vu un navire aérien au-dessus de la ville. Trois hommes et une femme en seraient descendus avant que l'engin ne disparaisse subitement. Donc là, c'est j'imagine que c'est un travail d'archives. Hein. J'ai pas pu consulter ces archives moi-même, mais j'imagine que bon, si Lyon Capital, qui est un média tout à fait sérieux, parle de cette apparition-là en 832, c'est que ça a été relaté quelque part. Et les personnes qui seraient descendues de cet étrange vaisseau, donc c'est décrit à l'époque comme un navire aérien. C'est toujours ce qui est compliqué avec les vieux témoignages, hein, d'OVNI, c'est-à-dire qu'on voit quelque chose qu'on rapporte à ce qu'on sait. Hein. C'est-à-dire que aujourd'hui, évidemment, un navire aérien, on imagine un espèce de bateau, ça fait un peu rigoler, mais il faut s'imaginer que si ça a été observé, c'est un truc qui est observé en contexte, et que voilà, les gens ne pouvaient pas parler de soucoupe volante. Et donc des personnes seraient descendus de cet étrange vaisseau. Et ces personnes auraient une apparence en fait tout à fait normale. Hein. Donc trois hommes et une femme. Ces trois hommes et cette femme déclarent, eux, être humains. C'est en tout cas ce qu'ils disent. Hein. Ils disent avoir été enlevés alors qu'ils travaillaient dans un champ dans la région lyonnaise et qu'après leur enlèvement, ils auraient visité des pays inconnus.
C'est les 4400 en France, quoi.
C'est les 4400, mais 4, en fait.
Les 4, ouais, du coup, c'est 4. La version française, donc c'est...
Ouais,
c'est
ça.
Le budget est plus réduit. Ça ferait une bonne fiction pour France ça 2, d'ailleurs.
Ouais, oui, c'est vrai. En plus, il y a un petit côté historique, ouais, on est en 832. Donc oui, là, comme on est en 832, clairement, on les accuse de sorcellerie.
Alors, oui, c'est la grande mode de l'époque.
Ouais, voilà, c'est exactement ça, c'est la grande mode. Et ils ont failli, du coup, être brûlés vifs sur un bûcher, mais heureusement, l'histoire dit que l'archevêque Agobard intervient et ordonne leur libération. Alors, je sais pas ce que l'archevêque Agobard avait pour libérer ces personnes, pourquoi il les a libérées en particulier, mais c'est visiblement lui qui diminue les tensions autour de la foule qui apparemment voulait complètement les lyncher, en fait. Hein. Donc, les quatre personnes vont être du coup relâchées, vont disparaître et on ne les reverra plus jamais. Donc, fin de l'histoire. Ça, c'est la première recension d'OVNI dans l'histoire lyonnaise. On fait un bond dans le temps, maintenant, pour aller en avril 1528. La ville de Lyon est alors en panique après l'observation d'un objet lumineux qui aurait traversé le ciel. Même chose en octobre 1621, en début de soirée, et là le chiffre est un peu plus important puisque plus de 500 personnes déclarent avoir vu, et là je cite à nouveau, une intense lumière et des éclairs au-dessus du pré de Bellecour, donc à l'époque qui était en deux mots, ça a donné la place Bellecour après, pendant plus d'une heure. Alors là, on n'est plus sur le même type de délire, quoi.
C'est un vol stationnaire très long, quand même.
Ah, ouais, voilà, ils ont ravitaillé, quoi. Littéralement, ils faisaient un arrêt au stand, je sais pas. Donc, et puis surtout 500 personnes pendant une heure. Donc c'est difficile d'avoir une hallucination, surtout que là, on est en 1621. Donc, les expériences de la CIA, à ce moment-là, ça peut pas être une hypothèse. Hein.
C'est difficile d'avoir une hallucination, mais il y a aussi ce phénomène psychologique qu'on appelle l'hallucination collective.
Oui.
qui a quand même expliqué beaucoup de choses à travers l'histoire, qui peut potentiellement expliquer celle-là. Désolé d'être sceptique sur cette histoire-là.
Vraiment, tu casses le mystère. Hein.
Mais on peut totalement expliquer ça par une hallucination collective, comme c'est passé plusieurs fois dans l'histoire.
Oui, c'est possible, en effet. Et contrairement à l'événement de 832, là, aucun vaisseau ni aucune personne qui descend ou qui manque de se faire lyncher. On est sur un phénomène d'objet lumineux qui traverse le ciel. En plus, s'il traverse le ciel sur une heure, peut-être qu'il n'était pas si rapide au final. Enfin bref. Les témoignages de 1621 insistent aussi sur le fait que la nuit était tombée au moment où l'objet lumineux traverse le ciel, mais qu'on voyait comme en plein jour, tellement la lumière était forte. D'autres affirment que se tenait au-dessus de la ville, donc au-dessus de Lyon, une montagne de pierres qui flotterait en se déplaçant lentement au-dessus de Lyon. Et fait encore plus étrange, mais qui corrobore ce qui se serait passé à Lyon, une lumière identique dans d'autres villes françaises, a été vu à la même date. C'est-à-dire que si on remonte dans les archives, dans le même segment de temps, on a eu le même type d'hallucination collective, de lumière identique à ce qui a été observé à Lyon.
Donc là, ça devient un peu plus curieux, effectivement, je suis d'accord.
Ouais, après... Voilà, il faut nuancer, c'est que ce sont des faits qui sont corroborés, voilà, les articles ne mentionnent pas de sources d'archives précises. Alors, j'ai parlé dans notre histoire de Perrache, et il y a à Perrache les archives municipales que je compte aller consulter, puisqu'il y a d'autres affaires liées aux ovnis et à Lyon qui se sont déroulées comme ça tout au long de l'histoire de la ville. Donc ce que je te propose, Mathias, c'est de laisser un dossier ouvert.
Pour le dossier OVNI de Lyon.
OVNI de Lyon, exactement. Et de d'enquêter peut-être. D'enquêter, d'aller faire notre travail d'enquêteur, non pas de l'extrême, mais notre Élise Ducey de l'OVNI.
Écoute, je te laisse prendre contact avec... Donc c'est Alien Investigation, c'est ça ?
OVNI Investigation.
OVNI Investigation. Je te laisse prendre contact avec eux et fouiller les archives de Perrache. Et tu nous feras un compte rendu là-dessus. En tout cas, c'était déjà bien d'avoir ces histoires-là. Moi, j'en avais jamais entendu parler. Je savais pas qu'il y avait eu des ovnis à Lyon. Bon, en même temps, c'est vrai que la ville est tellement ancienne que ça ne m'étonne pas qu'il y en ait eu à travers l'histoire.
Oui, voilà. En fait, ce qui m'a lancé, c'est que j'ai vraiment envie qu'à un moment donné, on fasse, ou en tout cas moi, parce qu'après, c'est vrai qu'il faut aller sur place. Et là, en fait, ce qui m'intéresse, c'est que je peux aller sur place. Du coup, comme j'habite à Lyon, mais même en ayant habité à Lyon pendant mes études, j'en avais jamais entendu parler. Hein.
Ça me donne envie d'ouvrir des dossiers en région parisienne.
Ouais, aussi.
Parce que j'ai su.
Ah ouais.
Mais oui, non, bah écoute, très bien. Merci beaucoup. Eh bien, affaire en cours, j'ai envie
affaire
de dire.
Affaire en cours, ouais.
La cité dans le ciel. Le 28 mars 2017, une étrange apparition a troublé les habitants de la province de Guangdong en Chine. Une ville, composée de grands bâtiments sombres, a traversé le ciel pendant quelques instants. Alors, je sais pas si tu as vu ces images, parce qu'il y a des photos et des vidéos un petit peu partout sur Internet. Il y a quelques mois, il y a eu une spectaculaire apparition dans le ciel chinois. En fait, on voit le ciel nuageux et pollué de la province de Guangdong, et on peut voir se dessiner dans le ciel les contours d'une ville. C'est vraiment... On voit tout, quoi. On voit l'ombre d'un grand dôme, des bâtiments avec des cheminées se découper comme ça dans le ciel. Et c'est pas la première fois qu'on voit ça dans le ciel chinois. En mars 2016, dans la province de Dalian, on avait vu des choses similaires. Des grands immeubles noirs, on pouvait même distinguer les fenêtres à ce moment-là. Ces grands immeubles avaient émergé de la brume. Et c'est pas tout, parce qu'encore en 2015, déjà, les habitants de la province de Jiangxi avaient déjà assisté au même phénomène.
Donc tout en Chine.
Tout en Chine. C'était en octobre 2015, ils ont vu apparaître dans le ciel ce qui ressemblait à une espèce de skyline de building. Mmh. C'est une apparition qui a été observée par des milliers de personnes, hein, comme pour celle de 2016 et de 2017. La forme des bâtiments, donc c'est des bâtiments très élancés, très sombres, très resserrés. Moi, ça m'évoque un petit peu la ville réacteur de Midgard dans Final Fantasy VII. Tu sais, c'est très resserré comme ça. Et il y a ça qui apparaît d'un coup dans le ciel. Donc la ville était apparue brièvement avant de disparaître aussi vite qu'elle était apparue. Et ça pose question. On se demande qu'est-ce qui s'est passé dans le ciel chinois ces trois dernières années. Et pas seulement dans le ciel chinois, car comme je vais le dire après, des apparitions comme ça, on en a eu également aux États-Unis, on en a eu en Russie, on en a eu un petit peu partout sur le globe. Alors, comme d'habitude, dans les théories qui sont apparues sur la toile, on a parlé de vaisseaux extraterrestres. On a parlé de projets secrets de la CIA ou de l'armée chinoise, au choix.
Ah, et ils se font concurrence maintenant ?
Visiblement, dans les théories du complot, c'est ça. Donc voilà, beaucoup de théories du complot. Certains ont parlé d'une ville piégée dans l'espace-temps, piégée entre deux dimensions. Alors c'est très beau, c'est très poétique, mais malheureusement, je n'y crois pas à fond. Ça ferait un super pitch de film. Mais bon, voilà. Et beaucoup d'internautes y ont vu surtout une confirmation de l'existence d'une très célèbre théorie du complot, le projet Bluebeam. Est-ce que tu as déjà entendu parler du projet Bluebeam, mon cher Charles ?
Alors, comme ça me dit rien, mais ça me fait penser surtout à Dark City.
À Dark City ? Mais qu'est-ce que c'est que Dark City ?
Le film de la fin des années 90. Alors, je vais pas en parler parce que ça spoilerait, mais regardez cet excellent film de science-fiction. Je sais même pas si on peut qualifier ça de science-fiction, mais... Mais regardez-le, moi ça me fait penser à Dark City comme ça.
D'accord, bon alors je vais te parler de Bluebeam, je vais décrire ce qu'est Bluebeam, assez brièvement, hein, parce que si on rentre dans tous les détails de Bluebeam, on en a pour des heures. En gros, Bluebeam, ce serait la NASA.
Ah.
La NASA, pour une fois, c'est pas la CIA. Qui voudrait imposer au monde une religion unique, une religion un petit peu New Wave, dédiée au culte de l'Antéchrist. Voilà, j'avais dit qu'on était sur de la théorie du complot pure et dure.
C'est dit, il fallait le dire.
Selon ceux qui croient cette théorie, la NASA voudrait également imposer un nouvel ordre mondial. Ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de nouvel ordre mondial.
Non, dis donc.
grâce à des technologies inconnues du grand public, qui impliquent notamment de la manipulation mentale.
Inconnues du grand public et de tout le monde, en fait.
Voilà. L'idée, ce serait en fait d'avoir une espèce de dictature mondiale qui contrôlerait la population grâce à cette nouvelle religion.
Mais quel est le rapport avec une ville flottante ?
Alors attends, j'y viens. Parce que le projet Blue Beam, ça part très loin, il y a plusieurs étapes, il y a quatre grandes étapes. Et une des étapes, ce serait de faire croire à une invasion extraterrestre pour effrayer et mieux contrôler la population mondiale.
Hmm.
Donc pour les préparer à ça...
Renato y a cru. Hein.
Ah mais oui, non mais c'est complètement fou le projet Blue Beam. Pour les préparer à ça, la NASA utiliserait Hollywood. C'est-à-dire que des films comme Star Wars, par exemple, auraient, selon eux, pour but de préparer les gens à l'idée que nous pouvons être une seule nation, c'est-à-dire les Terriens, contre les aliens, contre les méchants, un peu partout. Donc ouais, évidemment, ça n'a aucun sens tout ça, hein, mais selon eux, les apparitions dans le ciel chinois, ça pourrait être une des manipulations de la NASA pour faire croire à une potentielle attaque alien. Et je te sens dubitatif.
Non. Non, bah oui, c'est oui, parce que
non, mais non, bah, c'est, oui, non. Donc voilà, c'est évidemment.
J'ai envie d'y croire.
Fou.
J'ai envie d'y croire parce que c'est beau et puis même c'est un projet qui aboutirait sur un, c'est un processus de paix quoi. Réunifier tout le monde, dire voilà, on est la race humaine. Regardez, eux c'est les aliens et tout, ça permettrait ouais, de tous nous réunir. Donc je pense que c'est un projet de paix à la base.
Oui. Ou de manipulation des
ou
masses.
De manipulation. Complot,
Bilderberg, ah là là. Non, oui, voilà, c'est une des théories du complot, je crois, les plus populaires qu'on retrouve avec les mythes de la Terre creuse et les reptiliens. Mais donc voilà. En l'occurrence, c'est faux. Puisqu'on a une explication totalement scientifique à cette apparition de ville dans le ciel. En fait, ça s'appelle une Fata Morgana.
Fata, en deux mots ?
Oui, Fata Morgana. Parce que ça tire son nom de la fée Morgane.
Ouais.
Alors, dans les légendes arthuriennes, pour ceux qui ne sauraient pas, la fée Morgane avait le pouvoir de manipuler notamment le vent et de faire voler des palais au-dessus de l'eau et de faire avoir des visions aux gens. Donc du coup, on a donné ce nom, Fata Morgana, en italien, hein, puisqu'il a été observé une des premières fois dans le détroit de Messine, en Sicile. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a pris le nom italien de la fée Morgane et que ça a donné ce phénomène à la fois optique et météorologique qui s'appelle la Fata Morgana. En fait, c'est un petit peu comme une combinaison de mirages, si tu veux. C'est un phénomène assez rare, on le trouve plutôt d'ailleurs principalement dans des régions polaires, mais aussi dans certains détroits golfs, donc notamment le golfe voilà, de Messine, dans des endroits qui sont propices aux conditions météorologiques, parce que pour en voir une, il faut qu'il y ait des couches, alors c'est un peu technique, hein, il faut qu'il y ait des couches d'air froid et d'air chaud qui se superposent,
ouais.
Et les rayons lumineux, donc c'est grâce à ça qu'on peut percevoir les choses, sont déviés. Et du coup, ça provoque comme une succession de mirages. Mais c'est pas vraiment des mirages, puisque les mirages, ça se passe vraiment dans ta tête. Alors que là, c'est vraiment observable. Tu peux le prendre en photo. Ça fait vraiment une illusion d'optique.
D'accord.
D'où ces vidéos et ces photos qu'on retrouve un petit peu partout en ligne, quoi. Voilà, ce qu'on voit est déformé, c'est amplifié. Donc c'est un peu comme une impressionnante illusion, quoi.
Mais ce que tu dis là, c'est que c'est des rayons lumineux qui passent à travers des courants de différentes températures. Et voilà, ça,
voilà, et ça fait des variations.
Mais là, en l'occurrence, c'était pas quelque chose qui était... La manière dont tu le décrivais, c'était nuageux, c'était de la pollution. Est-ce que du coup, les rayons lumineux passent de la même manière ?
Bah écoute, en tout cas, c'est l'effet que ça a fait. Donc je suis pas expert scientifique là-dessus. Hein. Mais en tout cas, c'est ce qui a été décrit. C'est que c'est ce phénomène-là qui s'est produit dans ces zones-là. C'est cette combinaison, en fait, de courants d'air de différentes températures qui dévie ta vision, quoi.
D'accord.
Et c'est hyper impressionnant, hein. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a pensé à des phénomènes surnaturels au début et que ça tire son nom de la fée Morgane. Mmh. Puisque donc, du coup, ce premier cas qu'il y a eu au détroit de Messine, ça remonte au Moyen-Âge. En fait, c'était des croisés qui étaient en train de naviguer sur la mer Méditerranée. Et ils ont eu l'impression qu'il y avait des énormes châteaux qui se reflétaient dans la brume du détroit, mais qui flottaient sur l'eau, quoi. Et donc du coup, eux ont cru que c'était ça, ils se sont dit « Ah, c'est comme la fée Morgane hein, qui fait flotter des châteaux, quoi.
Mm. »
Donc ça tire son de là, mais c'est pas la première fois qu'on a eu des cas aussi impressionnants. Hein. Si tu remontes, il y a eu aussi en 1818, et ça c'est assez marrant, Je connaissais pas l'histoire de l'explorateur britannique John Ross. Je l'ai découvert en consultant la fiche Wikipédia de Fata Morgana pour voir qu'est-ce que c'est exactement. Et j'ai appris que ce mec-là, c'était un explorateur britannique assez connu à l'époque. Mmh. Il était au niveau du détroit de Lancaster, donc c'est dans les eaux du Groenland. Ce mec-là, c'était un spécialiste des régions arctiques. Mmh. Et en fait, il devait trouver le fameux passage du Nord-Est, le passage qui permet de relier l'Atlantique au Pacifique. Et en fait, un jour, il a vu des montagnes. Il a dit que ça l'empêchait de progresser, qu'il pouvait pas aller plus loin, donc il est revenu. Et l'année suivante, son second, qui était devenu entre-temps capitaine, a prouvé que c'était en fait une Fata Morgana, et que les baies pleines de montagnes que voyait Ross n'existaient juste pas. Et du coup, John Ross, qui était assez respecté à l'époque, cette affaire-là a complètement détruit sa carrière.
Le pauvre.
C'est horrible, c'est horrible. Mais alors voilà, il y a eu ça, mais voilà, ça, c'est deux grandes histoires connues, les croisés et John Ross, mais il y a aussi eu plusieurs apparitions de montagnes, de villes, de châteaux, mais aussi des bateaux. Il y a eu beaucoup de bateaux et la légende du Holland des volants, c'est le bateau fantôme qui se déplacerait de manière incessante sur les mers. On suppose que l'origine de cette légende, il pourrait y avoir tout simplement une Fata Morgana. Et ça, il y a aussi beaucoup de cas d'ovnis qui pourraient s'expliquer comme ça.
Et les travaux de Miyazaki aussi, du coup, un château dans le ciel. Tout
oui,
ça.
Bah en fait, c'est, quand j'ai vu les images, ça m'a beaucoup fait penser à ça.
Et, ouais.
Et d'où le nom de cette histoire, la cité dans le ciel, c'était un petit peu un hommage. Mais ouais, je trouve ça très beau. Et bon, après, quand tu as l'explication scientifique, ça devient tout de suite beaucoup moins mystérieux. En fait, voilà, c'est mystérieux quand tu connais pas le phénomène.
Oui, mais en réalité, c'est impressionnant.
Voilà, c'est impressionnant. Il y a vraiment eu des ça se passait sur les réseaux sociaux chinois, sur Weibo et tout ça, il y a eu des messages paniqués, qu'est-ce qui se passe. Et en fait, voilà, quand tu as l'explication, ce n'est plus vraiment mystérieux, ça, c'est juste un phénomène qui s'explique par la science, quoi. Donc moi, je classe l'affaire, mais voilà, je voulais rassurer peut-être aussi les gens qui avaient vu ces images passer sur Internet. Rassurez-vous, rien de tout ça n'est vrai, et ce n'est pas le projet Bluebeam de la NASA qui veut vous faire voir des ovnis.
On va faire classer, mais belle affaire quand même.
Oui, affaire classée. Cette session de travail du Bureau des Mystères est désormais terminée. Merci à vous de nous avoir écoutés.
Le Bureau des Mystères est un podcast Riviera Ferraille, et à ce titre, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur le compte Twitter, @BDMlepodcast, sur notre page Facebook Inspiré de Faits Réels, qui est le nom de notre autre émission. La page Facebook va bientôt changer de nom, on vous tiendra évidemment au courant, et sur vos applications, dont Apple Podcast.
D'ailleurs, sur Apple Podcast, vous pouvez nous laisser des avis sur l'émission, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Vous pouvez nous laisser, si vous le souhaitez, si vous aimez l'émission, un petit commentaire 5 étoiles, ça nous permet de remonter un petit peu, de faire en sorte que plus de gens nous écoutent. Donc En vrai, si vous voulez nous soutenir, c'est le bon geste à faire. Nous laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Nous, on vous dit à la prochaine pour un nouveau numéro du Bureau des Mystères. Et d'ici là, ne prêtez pas trop attention aux grattements dans les murs.